L'audience est ouverte, huissier appelé.
Le ministère public contre Nino Ferrer.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Nino, Agostino, Arturo, Arthur, Maria, Ferrari, Pernigotti, Mascardi, Del Crosio. In arte, Nino Ferrer.
Oui. Et vous écrivez tout ça à chaque fois sur vos papiers d'identité?
Non, mais devant la justice, je dois décliner mon état civil complet.
Votre âge?
46 ans, je suis né le 15 août 1934 à Gênes, en Italie.
Et votre profession?
Auteur-compositeur.
Prouvez-le.
Nino Ferrer, 1934-1998. L'insaisissable.
Bonjour. Ça va, le gros toutou?
Monsieur James Brown.
Olivier Chaumel, Marie Placé.
Et où ton papa? Monsieur King, Monsieur Charles, Monsieur Brown. C'est quoi comme marque, ça? Le Klebs.
La Taillade est un endroit délicieux, une vaste bastide dans le sud du département du Lot, plus précisément dans le Quercy Blanc, à proximité de Montcuq, où Pierre Desproges et Daniel Prévost avaient laissé des souvenirs ineffaçables à l'occasion d'un épisode du Petit Rapporteur pour la télévision. Nino Ferrer aimait à dire à qui voulait bien l'entendre qu'il s'était taillé à la Taillade, fuyant Paris, son tumulte et son intolérable show business. Bien des gens ont pensé que la Taillade était un surnom, mais non, c'est le nom officiel de ce lieu, inscrit tel quel sur le cadastre. Nino Ferrer, que nous appellerons souvent Nino tout court, a fait effraction dans le monde de la chanson et plus généralement de la musique, tant il ne faisait rien comme les autres. Il avait suivi des études d'archéologie, d'ethnologie, de préhistoire, qui n'offrent que peu d'avantages lorsqu'on ambitionne de travailler dans les métiers du spectacle. Il avait également, à l'âge mûr qui précède l'âge pourri, pour reprendre une expression de Pierre Desproges, encore lui, forgé le concept et le joli mot valise de désabusion, qui le caractérisait si bien. En effet, les succès de ses débuts lui ont collé au basque, lui qui avait des ambitions plus nobles que celles d'un fantaisiste ou d'un amuseur public. Dès cette époque, Nino Ferrer produit de moins en moins de musique et de plus en plus de peinture. Il avait un vrai talent de peintre. Mais musicalement, le succès n'est plus là, sans préjudice de la qualité de la production. Et Nino Ferrer en conçoit une certaine amertume qui débouchera sur une tragédie prévisible.
Alors Nino Ferrer, il me semblait qu'on n'en retenait que des tubes, des hits, comme évidemment Mirza, Les Cornichons, Oh et un bon, Alexandre,
Gaston,
Le Téléphone, qui me semblait être la pointe émergée d'un iceberg, évidemment. Je connaissais assez mal les autres albums, mais je connaissais Le Sud, La Rue Madureira, la collaboration avec Mickey Finn, enfin quelques titres. Mais c'était si éloigné, ça avait si peu de rapport avec ce pourquoi on l'a retenu. Enfin, il est resté comme ça gravé dans la mémoire collective, que je voulais voir un petit peu ce qui s'était passé.
Alexandre Breton enseigne la philosophie, tendance rock. Il est producteur pour France Culture et publie des articles sur ses passions musicales dans Rock and Folk.
Effectivement, c'est très composite, c'est très hétérogène. Elle est composite parce qu'il tente toujours que des choses. Quand ils ont effectivement la rencontre avec Mickey Finn, bon, ça donne lieu à un album métronomique et pas du tout un album si mauvais. Une fois de plus, c'est pas mauvais du tout d'ailleurs, parce qu'il est l'un des premiers à tenter ça en France. C'est toujours ça. Il est toujours le solitaire qui fait un peu les trucs avant les autres ou qui les fait d'une autre manière et ça tombe à plat.
Mais il faut que vous nous expliquiez qui est Mickey Finn.
Oui, Mickey Finn, c'était ce guitariste que Nino Ferrer rencontre par l'intermédiaire de Jimmy Page, qui lui-même était le guitariste de Led Zeppelin. Alors, c'est vraiment le point de départ d'une aventure de Nino Ferrer dans le domaine du rock. Mais, donc la collaboration est fructueuse, l'album se fait dans l'enthousiasme, il est plutôt acclamé par la critique, mais les ventes s'effondrent. C'est pas un album qui se vend. Alors ça rend Nino Ferrer fou. Voilà. Ce qui était intéressant à fouiller un peu l'œuvre et la vie, enfin fouiller, chercher, étudier, examiner ça un peu de plus près, c'est le sentiment qu'il a jamais été à sa place. Alors quelle aurait été sa place? Il en avait une idée certainement, parce que c'est quelqu'un qui avait une immense exigence. Une idée ou un pressentiment, en tout cas quelque chose qui certainement le contraignait à ne jamais être satisfait de ce qu'il faisait.
Nino Ferrer, pourriez-vous nous dire comment vous avez débuté ?
France Inter, 1967.
Eh bien, j'ai débuté d'une façon assez spéciale. J'ai débuté en faisant de l'archéologie. En effet, j'étais musicien de jazz amateur pendant que je faisais mes études. Et puis, finalement, quand j'ai terminé mes études, je me suis aperçu que je pourrais abandonner plus facilement l'archéologie plutôt que la musique. Alors, j'ai décidé de me lancer à corps perdu dans la musique et de devenir musicien et chanteur professionnel.
Il est né d'un père italien et d'une mère française.
Henri Chartier, auteur de Nino Ferrer, un homme libre.
La famille est venue en Italie, sa mère a accouché en Italie, et puis ensuite ils sont retournés en Nouvelle-Calédonie, puisque la mère de Nino Ferrer était issue de la Nouvelle-Calédonie. Il a passé une grosse partie de son enfance en Calédonie, jusqu'à l'arrivée de la guerre. Les parents étaient partis visiter de la famille en Italie pendant la guerre, ils se sont fait surprendre par la déclaration de la guerre. Et donc, Nino Ferrer a passé toute la guerre dans sa famille en Italie. Mmh. Ensuite, ils sont retournés en France, retournés à Paris, en France métropolitaine. Et puis là, il a vécu dans les beaux quartiers. Non pas que la famille soit tellement fortunée, mais il s'est trouvé que par un hasard, il avait intégré les beaux quartiers. Il a fréquenté des lycées plutôt prestigieux.
Janson de Sailly, Henri IV.
Il a fréquenté la jeunesse dorée parisienne. Et il a traîné cette sale réputation qu'avaient les Italiens à la sortie de la guerre, hein, le coup de poignard dans le dos.
Il a souffert d'une certaine xénophobie.
Il a souffert d'une xénophobie certaine. Il a souffert d'une différence de classe parce qu'il se retrouvait finalement avec des jeunes gens qui étaient beaucoup plus fortunés que ne l'étaient ses parents. Mais
On est quand même dans un milieu bourgeois.
On est dans un milieu bourgeois, hein, faut pas se cacher, c'est d'un milieu qui a de l'argent, mais quand les Ferrari, puisque c'est le véritable nom de Nino Ferrer, quand les Ferrari arrivent en France, on a plutôt affaire à des gens qui sont dans une situation, on va dire, financière, à milieu de ce qu'on peut trouver dans les milieux bourgeois de la haute bourgeoisie parisienne. Mmh. Ils se referont financièrement, ensuite il aura évidemment une enfance plutôt dorée et une enfance tout sauf malheureuse, financièrement parlant, j'entends.
J'ai fait des études, tant bien que mal, jusqu'au bac. Puis après, j'ai fait des études avec plus de conviction. J'ai étudié l'ethnologie et l'archéologie préhistorique. Et j'ai fait d'ailleurs quelques campagnes de fouilles. Je travaillais sous la direction de M. Leroy Gourhan, qui était mon patron.
France Inter, 1986.
Et puis, quand j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que ça me serait difficile quand même d'arrêter la musique. Parce que je faisais de la musique depuis l'âge de 15 ans. En plus de mes études, je jouais de la guitare. Et puis, je commençais à jouer dans des groupes de jazz, etc. Alors à ce moment-là, à 25 ans, j'ai décidé d'essayer de faire de la musique sérieusement pendant 2 ou 3 ans. Puis au bout de 2 ou 3 ans, c'est pas que j'en vivais, mais je commençais à entrevoir la possibilité d'en survivre un jour, donc j'ai continué à en faire. Et puis finalement, j'ai réussi à faire mon premier disque à l'âge de 29 ans. C'était en 63, et puis finalement, 2 ans après, ou 1 an et demi après, j'ai eu mon premier succès, c'était Mirza, et ben, ça a démarré.
J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza.
Mirza, c'est le premier succès.
Mirza s'est enregistré en 65, c'est le premier succès. Ça fait déjà 2 ans qu'il est dans le monde du disque enregistré et ça fait déjà 2 ans qu'il a eu un certain nombre de déconvenues avec ses disques successifs. C'est une période où on pouvait encore sortir 2-3 disques et être soutenu par sa maison de disques jusqu'à ce que le succès puisse arriver.
Où est donc passé ce chien ? Oh, ça y est, je le vois, veux-tu venir ici ? Je le répéterai.
Pour raconter la légende de la création de Mirza.
Oui, alors, où est la part de vérité, où est la part de fantasme? Mirza, c'est quoi? Bah, c'est Nino Ferrer qui est à Saint-Tropez, qui est entouré par son groupe. Ils animent une soirée à Saint-Tropez, une femme a perdu son chien, il y a un message, elle veut faire passer un message sur la scène. Nino Ferrer s'empare du micro, demande si on n'a pas vu le chien qui s'appelle Mirza, et puis là-dessus on improvise un thème musical, et puis il commence en fait à improviser sur cette thématique-là, et ça va donner, après un travail de réécriture, la chanson Mirza. Avec le succès qu'on connaît.
Et vous y croyez ? À cette histoire ?
Je pense que comme tous les mythes, il ne faut pas trop creuser. J'espère qu'on a retrouvé le chien. Ça, c'est un autre sujet. Veux-tu venir ici ?
Oh, yeah, Satan et Mirza !
Je me souviens, j'ai réussi à procurer un poste à Galen.
Archive personnelle de Daniel Panchenko, journaliste, 1987.
J'étais pensionnaire à un moment dans ce collège à Passy. Et la nuit, avec des écouteurs, j'écoutais dans mon lit de la musique. C'est comme ça que j'ai découvert Yvonne Blanc, Jacques Ellian, des gens comme ça. C'est ça qui a commencé à me... Et puis là-dessus, j'ai fini par entendre du jazz, du vrai jazz Nouvelle-Orléans. Alors là, ça a été un déclic complètement fantastique. Ça m'a fait vibrer à mort. J'ai loué une guitare, puis j'ai réussi à m'en acheter une. Et puis voilà, ça
s'est... Vous avez commencé par la guitare ?
Ouais, j'ai commencé par la guitare. Mais j'ai essayé de jouer de pas mal d'autres instruments, toutes sortes d'instruments. Hein. Ah, ouais. Oui, parce que comme j'ai rencontré ensuite des gens comme Richard Bennett, qui a été un de mes plus vieux amis, enfin... Et on a monté ensemble un petit orchestre par la suite, enfin il y a eu toute une évolution comme ça, et j'ai essayé de jouer plusieurs instruments, j'ai joué trompette, trombone, clarinette, sax ténor, sax alto, je crois même que j'ai essayé le soprano à un moment, la contrebasse, et puis la contrebasse, je me suis arrêté un peu sur la contrebasse, pendant quelques années j'ai été musicien de jazz à la contrebasse, ouais. Bon, et la basse, c'était bien, parce qu'en fait, je m'en suis aperçu après, c'est génial de jouer de la basse en jazz, dans un orchestre de jazz de l'Orléans, parce que ça vous apprend à décomposer les harmonies, et ça vous fait ressentir les harmonies, vous voyez. Après ça, ça m'a permis de composer et d'arranger des morceaux, parce que quand on joue de la basse, on se balade sur l'harmonie.
La singularité aussi de Nino Ferrer, c'est que par rapport à la génération vieillie, c'est quelqu'un qui a fait des études. Quelqu'un d'extrêmement cultivé, quelqu'un qui a fréquenté les bancs de la faculté. Et bon, ça n'a rien à voir avec la génération d'après, qui pour le coup, alors, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on est inculte, mais on n'est pas du tout sur le même genre. On est faire quelqu'un qui est extrêmement structuré intellectuellement, alors qu'on fait chanter des gamins qui ont 16, 17, 18 ans. Donc il n'a pas du tout la même approche musicale, il n'a pas du tout la même approche du monde du show business, il n'a pas du tout la même... Enfin, il a beaucoup plus de recul que n'en auront des gamins qui sont, on va dire, pris à la sortie du lycée et qui ensuite sont menés d'une main de fer dans la réalisation d'une carrière.
Je me suis laissé guider par le hasard et quand j'ai fait des rencontres, j'en ai toujours profité. Justement, il m'est arrivé plusieurs fois... De composer ou d'écrire avec des gens que j'ai rencontrés.
Alors, avec Estardi, là, c'est au niveau de la technique ?
Non, c'était au niveau musical. Au niveau musical. Ah oui, avec Estardi, oui, absolument. Estardi est un musicien fantastique. Avant d'être un technicien, il était musicien.
Et vous avez donc toujours eu... Bon, il y avait l'amitié dans le jazz. Et là,
ça a toujours été comme ça, ouais. J'ai toujours cherché à travailler comme ça. J'ai beaucoup de mal à travailler d'une façon froide et enfin, comme ça se passe dans un bureau où on respecte les horaires, etc. C'est très difficile pour moi, c'est vraiment très difficile. Moi, j'ai vraiment besoin de me défoncer sur un travail avec des gens avec qui j'ai une relation presque passionnelle. Enfin.
Une des singularités de Nino Ferrer aussi, c'est que c'est quelqu'un qui va prendre vraiment du recul par rapport au monde du show business, qui va s'affranchir d'un certain nombre de règles qui étaient plus ou moins implicites, hein, c'est-à-dire qu'il fallait absolument un producteur, qu'il fallait absolument venir à un studio d'enregistrement de la maison de disques, qu'il fallait absolument prendre les musiciens de studio qui étaient payés par la maison de disques. Lui, il va décider de délocaliser tout ça, il va s'installer des studios d'enregistrement chez lui, hein, de qualité professionnelle.
Arway Malmaison,
ça commence dès Arway Malmaison, il s'installe un véritable studio d'enregistrement professionnel avec du matériel haut de gamme, du matériel qui est d'ailleurs un peu bidouillé puisque on récupère du matériel studaire qui est remis au bout du jour.
Ce sont des magnétophones à bandes.
Des magnétophones à bandes.
De la bande très large, de 2 pouces.
Et puis des consoles qui sont créées par un ingénieur suisse, qui sont des consoles extrêmement, on va dire, en avance sur leur temps. C'est notamment Günter Loof qui va fournir le matériel d'enregistrement d'Nino Ferrer. C'est notamment celui qui a mis au point le matériel à CBE, au studio CBE. Et c'est le premier studio CBE, c'est le premier studio français en 8 pistes. Hein. Donc on a affaire à du matériel qui est du matériel extrêmement performant. À la même époque, hein, à la même époque où les studios CBE sont équipés en 8 pistes, on est toujours en 4 pistes au studio Abbey Road. En 67, les Beatles enregistrent Sgt Pepper sur A4 pistes. En 67-68, les studios CBE ouvrent leurs portes et ils sont équipés en 8 pistes.
Julie Estardi, vous êtes la fille de Bernard Estardi et vous vous occupez du studio CBE que votre père avait fondé.
En 66.
Construit. CBE, ça fait ?
CBE, c'est Châtelain, Bisson, Estardi, du nom des trois associés de départ.
Ouais.
Voilà, c'est une aventure qui a commencé en 1966, du temps où Bernard Estardi faisait des tournées avec Nino, à l'époque, avec Bill Coleman, mais surtout avec Nino. Et avec son ami Georges Châtelain, ils décident de monter un studio d'enregistrement pour faire leur propre production.
Dans le 18e, près de la porte de Clignancourt.
Absolument, absolument. Et c'était une boutique d'imperméables, donc il n'y avait rien ici. Ils ont tout fait, l'acoustique, l'électronique, ils ont tout réfléchi, tout pensé.
Et votre père savait tout faire ?
Il était ingénieur en travaux publics, mais il était très malin. Et à partir du moment où, dès son plus jeune âge, finalement, il démontait tout ce qu'il trouvait, donc il avait toujours un tournevis sur lui, ça ne l'a jamais quitté. Donc en réalité, il était à la fois électronicien, électricien, ingénieur, pianiste, organiste, bassiste, enfin voilà.
Arrangeur.
Arrangeur, bien sûr, bien plus tard, mais arrangeur, bien entendu. Une sorte de géotrouve-tout, en réalité, voilà.
L'amitié Estardi-Ferrer a été un peu houleuse parfois.
Très.
Julie Estardi.
Très. Mais elle n'a jamais faibli. C'était un mode de fonctionnement dans l'amitié, dans le travail. Quand il venait en studio et quand il se retrouvait pour créer, il y avait une atmosphère de ring. Donc c'était deux boxeurs qui montaient sur un ring. Pas pour s'affronter et pour détruire l'autre, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de lutter pour arriver à faire quelque chose de magnifique.
Montrez-moi un peu les installations.
Alors,
ça fourmille, hein, y en a partout.
Oui, et c'est très chargé, le lieu est chargé. Ici, quand on arrive direct, quand on pousse la porte du studio, on rentre directement dans le studio. Il n'y a pas de machine à café, il n'y a pas de salon qui nous accueille avec attendez, bientôt ça sera à vous. Non, pas du tout. Là, on ouvre, on pousse la porte et on tombe directement sur l'ingénieur du son. Et à cette époque-là, l'ingénieur du son faisait 2,05 m. voilà. Il y avait. Donc on tombe sur la console, sur l'ingénieur du son, sur la séance de travail, et on est tout de suite dans le jus, on est tout de suite dans le bain.
Vous dites 2,05 m. C'est pour ça que vous avez intitulé le livre que vous avez consacré à votre père, Le Géant. Et Nino Ferrer, dans une présentation des musiciens, qui est très drôle, intitulé La bande à Ferrer, qui a été gravée sur un disque, dit « Il faut pas le mettre en colère, car il mesure 2 mètres et des poussières. »
frisé et tout comme un mouton. Mais il vaut mieux pas le mettre en colère, car il mesure
avec dans des orchestres de jazz et qui s'intéresse, enfin, qui est peut-être l'un des rares, sinon le seul en tout cas, à avoir une telle connaissance, un tel goût, un tel enthousiasme à l'égard des musiques afro-américaines, des musiques noires, comme on disait.
Alexandre Breton, rédacteur à Rock and Folk.
Il joue dans ces orchestres, il s'arrête pendant un certain temps, quasiment un an, il va faire le tour du monde, il revient et il est complètement vieilli en fait, il est complètement... il est mis sur la touche parce que le rock and roll français, en tout cas, a débarqué. C'est l'époque de Johnny et puis des premiers Vince Taylor. Il s'installe à Rueil-Malmaison, à la fameuse Martinière. Et là, il y a cette banderole sur laquelle est inscrite « Ici, je suis chez moi, je reçois des nègres, des putes, des juifs, des drogués et je vous emmerde. » Et on entend vraiment dire ça, quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment le... J'ose pas dire le punk, parce que c'est devenu calvaudé, mais...
Ça lui correspond.
Ou ça lui correspond, c'est le sale type qu'on a rien à foutre, qui fait vraiment un bras d'honneur. Je reçois des putes, des nègres et des juifs. Voilà. Donc les parias, quoi. Les laissés pour compte, les... Ouais. C'est-à-dire lui, au fond, il est tout ça.
Mon père, il était ingénieur. Ma mère ne faisait rien. C'était une petite vie tranquille. Et moi, j'étais un garçon bien.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il a une prise de conscience. Il s'aperçoit qu'il est enfermé dans un personnage, il est enfermé dans un style musical.
Henri Chartier.
Qui lui pose problème.
Mais tout ça lui rapporte beaucoup d'argent.
Ah, tout ça lui rapporte énormément d'argent. Je pense d'ailleurs que c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a gagné beaucoup d'argent et qu'on a obtenu le succès, parce qu'il a un succès populaire qui est extrêmement important, il se pose la question de savoir, je suis riche, je suis célèbre, et ça m'avance à quoi ?
Et j'ai des belles voitures.
J'ai des belles maisons, j'ai une belle femme, ou j'ai des belles femmes, j'ai des conquêtes faciles, j'ai du succès, et puis là-dessus, il va partir en Italie, parce que donc, il ne faut pas perdre de vue que Nino Ferrer, jusqu'en 1989, aura la nationalité italienne. Il n'a pas la double nationalité, il l'aura qu'en 1989. Et donc, il décide d'aller en Italie, mener une carrière italienne. Et là-bas, il va devenir extrêmement célèbre grâce à une chanson qui s'appelle « La Pelle Nera ».
Qui a son équivalent en français ?
Oui, « Je voudrais être noir ». Et il s'aperçoit qu'avec des textes qui sont tous des textes rigolos, finalement, on peut être reconnu, selon lui, à sa juste mesure, avec des textes qui sont intelligents, qui dénoncent la ségrégation raciale aux États-Unis. Et partant de là, il va décider de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Alors, ensuite, il y aura cet album Métronomie, qui va être en fait une traduction d'un album qu'il avait initié en Italie, qui n'avait strictement aucun succès.
Mais auquel il tenait beaucoup.
Auquel il tenait beaucoup et qu'il va réenregistrer intégralement en France et qui va entièrement traduire en français.
Par contre, à peu près au début des années 70, sans doute sous l'effet de l'influence de la musique que j'entendais venant des États-Unis et d'Angleterre, j'ai eu envie de faire des albums qui soient un ensemble, avec une unité de style, de musique, de texte, d'inspiration, disons. Et à partir de ce moment-là, mes ennuis ont véritablement commencé, parce que je n'ai jamais pu réussir à faire écouter mes albums, qui pour moi sont mes symphonies. De chacun de ces albums, on a extrait une chanson qui a été balancée comme un tube dans les médias, c'est-à-dire la radio, la télévision, la presse, et je n'ai pas pu faire écouter le reste. Je suis resté un fabricant de tubes, ce que je refuse d'être, et je n'ai pas pu faire écouter ma musique, qui est celle d'un compositeur qui, depuis 17 ans, vit de sa musique en Europe.
Comment s'appelle le chien ?
Manos. C'est un nom très compliqué.
Oui. J'ai du mal à le retenir.
Voilà.
Il y en a d'autres ?
Il y en a un deuxième qui s'appelle Poum Poum, c'est encore plus dur. Hein.
Oui. Voilà.
Donc voilà la maison de la Payade.
La maison dans laquelle il a installé le studio dès son arrivée.
Arthur et Pierre Ferrari, les enfants de Nino Ferrer et Kinu.
Nino Ferrer s'est installé ici en 77.
77, ouais.
Je crois que le domaine fait 25 hectares ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, 25 hectares.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vieilles, j'ai de toiles d'araignée. Sentez la confiture et l'automne, l'enfance, l'éternité.
C'était le rêve qu'il avait écrit un peu dans pas mal de chansons, hein, cette maison près de la fontaine, de lâcher tout pour venir vivre un rêve bucolique au milieu de la nature, des animaux.
Vous pensez qu'il en avait envie depuis longtemps ?
Ouais, je pense que ça fait toujours partie de sa vie, parce qu'il y avait une maison de famille en Italie, le Crozio, auquel il était beaucoup attaché, et il a aussi, je pense, recréé une partie de cette maison, du souvenir qu'il en avait, de l'amour qu'il en avait.
Mais en agissant ainsi, il se coupait du milieu musical parisien ?
Ouais, totalement, ouais. Il est parti. Fallait 9 heures pour venir. Donc,
ouais.
C'était un geste quand même. Puis il était autoproducteur, auto-éditeur.
Et que signifie ce geste a posteriori ?
Je pense qu'il y avait aussi une pression de la célébrité. Ça l'a amusé les premières années, mais au bout d'un moment, il n'en pouvait plus parce qu'il a vraiment été identifié comme la grande grosse star des années fin 16 avec Mirza, Le Téléphon et Cornichon. Et toute l'industrie lui a demandé de continuer à faire ça. Et ça l'a traumatisé un peu. D'être ce faiseur de tubes là alors qu'il voulait enregistrer des albums et se faire entendre pour autre chose.
Oui. Je crois qu'il était furieux que dans le disque Métronomie, on ait retenu que la maison près de la fontaine, c'est bien ça ?
Oui.
Et que, en gros, je crois que le 45 tours avec la maison près de la fontaine a été vendu à 500 000 exemplaires et que très peu de gens ont écouté l'album.
Ah oui, c'est resté une niche, mais qui petit à petit quand même s'est fait entendre en Angleterre, dans certains, il a été reconnu, mais effectivement, les ventes de ce disque, c'est dérisoire.
Zelda Meyer, vous avez rencontré Nino Ferrer dans le Lot.
Absolument.
Dans sa bastide, qui s'intitule La Taillade. Dans quelles circonstances?
Alors moi, j'allais dans le Lot depuis les années 73, puisque j'avais des amis qui avaient acheté une maison. Et je fréquentais de temps en temps, il y avait plusieurs cafés à Montcuq. Et j'ai rencontré Nino au début, au café. Et très rapidement, j'ai été invitée à La Taillade, qui, nous et moi, avions des enfants d'à peu près le même âge, à un an d'écart. Ça a été très important dans notre rencontre, parce que en fait, on avait la même façon d'élever nos enfants, dans la mesure où Montcuq était un endroit très particulier, parce qu'il y avait un centre marmottant, et le centre marmottant de là-bas ne fonctionnait pas très bien, puisque les animateurs étaient restés toxicaux. Donc il y avait, à Montcuq, beaucoup de marginaux et d'anciens toxicaux. Alors par marginaux, j'entends des hippies qui, en fait, avaient des envies de campagne, mais qui ne savaient rien faire, enfin, qui ne savaient rien planter, enfin, vous voyez, qui étaient un petit peu... et qui pouvaient vivre. Alors, il y en a qui vivaient dans des tipis, parce que bon, ils avaient décidé de vivre à l'indienne. Et j'ai mis 4 ans à comprendre qui avait eu des enfants avec qui. Voilà. Mais c'était un peu, comment dire, amusant. Et je sais que Nino a d'ailleurs fréquenté ces gens-là aussi. Il en a même fait travailler chez lui, pour ceux qui avaient envie de travailler, pour faire des travaux. Voilà. Il était très ouvert.
La gueule et l'angoisse, la guerre au Métèque. Aux hormones, la mer pleine de merde, le monde en plastique, la structuration, le métro.
Oui, et quand on a du mal à accepter que la chanson soit une sorte de bien ou de produit de consommation comme un autre, pourquoi on continue à chanter?
Parce que c'est mon métier, parce que je ne sais rien faire d'autre finalement. C'est la seule chose que je sache faire, écrire des mots et des musiques. Je me pose la question souvent, mais je ne sais pas quoi faire d'autre, sincèrement. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'essayer de faire partager à quelques personnes les réflexions que je me suis fait depuis quelques années. C'est la seule manière pour moi de le faire.
Moi, je pense que Nino a souffert d'être dans le show business. Je pense qu'il aurait dû, peut-être, être plus dans un milieu plus ouvert, rock'n'roll. Plus, ça lui aurait plus correspondu. Je crois que le show business, c'est un peu sans pitié. C'est beaucoup les paillettes. On vous aime quand ça marche et on vous jette quand ça marche pas. Dans le rock'n'roll, je pense que c'est plus simple, que c'est plus vrai. C'est mon analyse. Je pense qu'il a souffert et qu'il s'est retranché.
Il a souffert de ce monde du showbiz.
Oui, oui, oui.
Il a tout fait pour le fuir.
Il a tout fait pour le fuir.
Mais tout en y étant, c'est très ambigu.
C'est bien pour ça que je vous dis que l'analyse est compliquée à faire, parce que forcément c'est ambigu quand vous avez appartenu à une sorte de famille à laquelle vous pouvez peut-être croire. Et enfin, on sait que dans les familles, quand ça ne va pas, ça ne va plus. Hein. Et donc... il avait à la fois envie, sans doute, de retrouver ça, tout en le critiquant, tout en étant parfaitement lucide. Nino était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très sensible, et donc qui voyait tout.
quand il était dans la rue, dans n'importe quel endroit avec nous. Mais immédiatement, il était pris d'assaut par une, deux, trois, quatre personnes pour venir le voir, le toucher, avoir un autographe, avoir quelque chose. Et ça peut, je pense, être un peu traumatisant.
Ils voulaient être tranquilles et à la fois ils arrivaient au resto et ils se garaient avec sa Bentley ou avec sa Rolls devant l'entrée du resto, ils rentraient avec son manteau de fourrure et ils partaient furieux parce que tout le monde le regardait. Et donc on les disait, mais à la fois il fallait pas te garer là et pas mettre ce manteau là. Mais à la fois ils voulaient faire ce qu'ils voulaient.
Alors je tiens quand même à parler de Kino deux minutes.
Zelda Meyer, amie de Nino Ferrer et habituée de la taillade.
Kino faisait vivre la taillade. Elle avait une pulsion de vie absolument extraordinaire. Elle avait une énergie d'enfer. Et surtout, elle préparait des dîners avec alors les musiciens. Quand il y en avait, elle faisait la bouffe pour tous les musiciens, mais avec les amis, pareil. C'est-à-dire que c'était, des fois, on était 15, 20, 30. Et c'était elle qui faisait tourner tout ça. On lui donnait.
Il faut savoir le faire.
Il faut savoir le faire. Ah, mais tout à fait. Mais elle avait une organisation absolument. C'était le genre de fille qui était capable de vous préparer à l'improviste un dîner, vous savez, en cherchant dans les placards ce qu'elle avait, et c'était magique. Voilà. Et Nino, c'était un épicurien. Il parlait beaucoup de nourriture. Et beaucoup du plaisir de la nourriture. C'était une espèce de... C'était très sensuel, la nourriture, là-bas. Et Nino, quand il allait très très bien, prenait sa guitare, sous le ciel magnifique du Lot, hein, puisque c'est connu que le ciel du Lot est particulièrement beau, avec les étoiles. Et donc, je prenais la guitare et il pouvait chanter pendant 2-3 heures. Nino connaissait, je crois, plus de 300 blues par cœur. Ouais. Et là, il était très généreux, quoi, quand il était comme ça. Parce qu'il y a des moments où il y avait le Nino sombre aussi, qui allait mal, qui était un peu recroquevillé sur lui-même et qui allait pas bien du tout.
On se rend compte que Nino Ferrer avait quand même un caractère de cochon.
Il avait un caractère de cochon.
Très colérique.
Il avait des phases. Mais quand il piquait ses colères, ça imprégnait toute la maison. Voilà. C'était un petit peu... On était soumis un petit peu aux humeurs de Nino.
Ça ressemblait à quoi, les engueulades dans la famille?
On fermait sa gueule. Hein,
Ferrari, c'est vrai?
Quand on se faisait engueuler par Nino, on fermait sa gueule. Ouais. Ouais.
Vous écrasiez?
Ah là là.
Parce que vous en aviez peur?
Ah ouais. Ouais. Bah ouais, il était quand même... Bah moi, enfin, j'ai été témoin tellement souvent d'engueulades, de trucs qui dérapaient, trucs violents, enfin de bastons qui, au restaurant.
Il était querelleur.
Ouais. Il était querelleur. Ouais.
Par jeu ou...
Non, je pense pas. Non, c'était pas un jeu. C'était un truc incontrôlé, en fait.
Dégoupillé et impossible de redescendre, c'est de la maladie. Hein. D'un moment qu'on n'arrive plus à être connecté au reste du monde, aux autres, et qu'on reste bloqué tout en haut dans la colère terrible qui rend mal et qui rend incapable de reprendre conversation et une certaine douceur à la vie, j'ai envie de dire. Parce que normalement, c'est... Il faut être apte à se reconnecter aux autres quand on est comme ça dans un traumatisme colérique. Et ça, il y avait beaucoup de mal. Parce que quand il craquait et qu'il pétait un plomb, donc il pouvait hurler, taper dans une porte ou un objet ou jeter une tasse, il fallait 2 jours minimum pour redescendre. Il s'enferme dans une chambre et le temps de refaire descendre la pression pour se rouvrir aux autres et revenir dire bonjour. Et il regrettait. Bah, je pense évidemment, là, toute personne qui rentre dans des colères comme ça incontrôlables, une fois redevenu calme et stable, il y a une conscience qui doit faire énormément mal.
Ouais, il y a une culpabilité dingue et c'est ça qui l'enferme encore plus, quoi. Il s'enfermait dans sa culpabilité.
Garden and the rose that's
connaissez cette image, Alexandre Breton. Elle est assez célèbre. Elle illustre la pochette d'un album de Nino Ferrer, paru en 74 ou 75.
C'est Nino en Radia, bien sûr, c'est un superbe album, magnifique album.
Vous pouvez décrire l'image ?
Bon, alors là, c'est le Nino Ferrer qui n'a plus grand rapport avec ce bel Italien tiré à quatre épingles, cheveux tirés en arrière. Là, c'est barbe en bataille, toujours ce beau foulard. On a quelques vestiges du dandy des années 60, mais c'est une espèce de dandy pastoral, quoi. Avec cette magnifique radia. Et c'est là qu'on a le Sud, évidemment, le titre célèbre. Mais voilà, donc c'est le Nino Ferrer qui est plus du tout l'homme des cabarets et des belles limousines. C'est le Nino Ferrer retiré à la campagne.
Il faut quand même préciser, Alexandre Breton, que Radia Fry, sur cette image, est toute noire et toute nue.
Ouais, elle est noire et nue.
Et magnifique.
Elle est sculpturale, elle est sublime. C'est une déesse noire. Là, elle concentre à elle seule tout ce qui a fasciné Nino Ferrer dans les musiques noires, justement. Je ne sais pas, il faudrait y trouver quelque chose.
Et dans le monde des femmes.
Et dans le monde des femmes, mon Dieu, puisque c'est quand même un homme à femme, Nino Ferrer. On lui prête une relation avec Brigitte Bardot. De toute façon, plein de relations. Mais là, il a vraiment la belle divinité afro-américaine.
Il a mêlé, il a joué avec des musiciens, que ce soit afro-jazz, afro-funk, et les heavy metal kids qui étaient anglais, rock lourd. Il a mêlé tout ça, quoi. Avec des textes, avec une écriture, avec un fond jazz, avec un mélange harmonique, mélodieux, enfin...
Pierre Ferrari, fils aîné de Nino Ferrer et Kinou. Vous avez connu Mickey Finn, guitariste irlandais.
Ouais, très bien, j'ai très bien connu Mickey, mais c'était comme un oncle.
Ouais.
Ouais.
Personnage un peu problématique, parfois.
Problématique. Je sais pas, quelqu'un de libre. un rocker, un guitariste, un guitar-héros.
Qui avait soif,
ouais. Ouais, bah oui, bah, il me racontait que ses parents mettaient un peu de whisky dans son biberon, donc... Ouais, il picolait pas mal, Mickey, mais... Ouais. C'est vrai qu'il y avait il était souvent à la maison, c'était...
Ici, il venait dans le Lot.
Ouais. Bah oui, pour jouer avec Nino, il était souvent là. Puis c'est resté, il y a eu toute sa vie, il a été là. Enfin, par épisode. Mais en tout cas, on sait jamais... ils sont jamais perdus de vue. Jamais. Un peu, ouais, je pense que ça y a eu des moments un peu de tension. Il n'était pas hyper rigoureux parfois. Bah, Nino en a parlé d'ailleurs dans ses chansons, quoi. Enfin, mais ils étaient très proches.
Et ils rigolaient ensemble.
Ah bah oui. Ils pouvaient pas que s'engueuler, sinon ça aurait été invivable. Il fallait bien qu'ils rigolent et qu'ils crient ensemble. Ouais.
J'ai mal aux dents, je vais me soigner, ça fait très mal. Puis il s'en est allé dans le premier bistrot, avec 83 copains pour boire un pot. Quand il est ressorti guéri du mal aux dents, il avait mal au cœur et c'était pas marrant. Alors on est allé boire un dernier godet, et quand on s'est quitté, c'est moi qui étais bourré. Mickey possède en tout 218 voitures, quelques-unes ont fini dans le dépôt d'eau. Certaines ont disparu mystérieusement volées, et les autres ont pris feu, combustion spontanée. Il a démoli la voiture, il a défoncé la toiture, mais quand il joue de la guitare, il assure. Il a claqué tout notre argent, il a bu le désinfectant, mais quand il gratte son instrument, il se défend.
toujours dans un... Alors, on l'a assez dit, c'est vrai qu'il est dans un rapport d'auto-dénigrement permanent, d'auto, enfin de, on a même parlé de sabordage, d'auto-sabordage.
Alexandre Breton.
Quand il sort le Sud, après l'avoir travaillé jusqu'à l'épuisement, il n'en est toujours pas satisfait, c'est raté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre dont l'auteur dit, voilà, c'est publié, c'est fait, mais c'est totalement raté. Et on connaît les crises, de, les colères mémorables de Nino Ferrer, les emportements, on a parlé assez de son côté atrabilaire. Donc, il y avait bien une idée. Alors, est-ce qu'on juge une œuvre, est-ce qu'on juge une idée d'œuvre ? Peu importe en réalité. Il s'avère que cet homme restera dans l'histoire de la pop française, comme celui qui n'a absolument pas reconnu un seul de ses, entre guillemets, de ses enfants.
Mais est-ce qu'on est obligé de le croire sur ce point-là ?
Alors, pas du tout. On n'est pas obligé de le croire, on n'est pas obligé de le suivre, on n'est pas obligé de prendre acte de ce qu'il dit. Mais pour ma part, c'est là que ça m'intéresse. C'est que je ne dissocie pas l'œuvre non plus d'une démarche. Et je pense que connaître la manière dont Ferrer, en tout cas, pensait son travail, c'est intéressant, de la manière qu'on peut s'intéresser à des témoignages d'autres artistes qui peuvent apporter un éclairage sur leur œuvre. Alors, une fois de plus, oui, effectivement, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Mais j'aime l'idée que tout ce qu'on écoute pour l'auteur est un échec.
Vous êtes né en 73, hein, Pierre Ferrari ?
Oui, je suis né en 73.
Et peut-être avez-vous assisté à ce que je vais décrire. Un beau jour de 1979, en janvier, Nino Ferrer, ici même à La Taillade, dans le Quercy, voit soudain des militaires en manœuvre sur son terrain, et pas qu'un peu. Et ça va mal se passer. Vous connaissez cette histoire, bien sûr.
Ah bah bien sûr, ouais, c'était... très bien, c'était... On s'en souvient tous, maintenant plus tous, parce qu'il y a des présents, il n'y a plus beaucoup. Mais
il est revenu.
En fait, ah bah oui, moi j'étais là. Et en fait, il est parti. Il y a eu les militaires qui sont arrivés, qui sont allés faire des manœuvres sur le à côté de là où j'ai mis les vignes. Là. Et donc c'était assez impressionnant. Et il est parti voir avec la Range Rover. Et il est revenu en sang, la voiture explosée. C'était super, ouais, c'était super traumatisant. Ouais. Il avait reçu une pierre, quelqu'un lui avait jeté une pierre sur la tête et il a eu des dizaines de points de suture, donc il avait tout le sang qui coulait sur le visage et tout. La voiture, il y a eu une grenade au plâtre qui avait été jetée, une grenade d'entraînement qui avait été jetée dans la range, donc il avait explosé le pare-brise, explosé les sièges, la voiture était toute comme ça. Donc il est revenu ici, il a pris son fusil chargé et il est reparti là-bas, il a appelé le gradé, qu'il a pris en joue. Bon, c'est... particulier quand même.
Très tendu.
Très tendu. Et il a dit, voilà, maintenant, je ne redescendrai que quand il y aura le préfet qui sera là. Après, il a fait un procès, il a attaqué l'armée, et il a gagné, et il a demandé un franc de dommages et intérêts. Ce qui est une double humiliation, parce qu'il aurait pu demander beaucoup, beaucoup d'argent, et en fait, il a juste demandé un franc.
Ouais.
Donc c'est vrai, et après ça, il a clôturé, il a fait clôturer tout le terrain. Et on a retrouvé après des tas de déchets, de grenades, d'amorces, de charges, de trucs, enfin de plein de trucs, des balles, des douilles.
Ils n'ont pas fait le ménage.
Ah non, non.
Et Nino Ferrer était furieux.
Ah mais il était déchaîné, quoi. Il était au-delà du furieux. Oui, et puis il y a un sentiment de... Très tribal, quoi, hein, de défendre son terrain, ça...
Son fief.
Son fief, quoi. Complètement.
C'est chez moi.
Voilà, point.
France Inter, 13 août 1998.
Vous avez pas vu Mirza ? Gaston, il y a le téléphone qui sonne, les cornichons, ses titres et ses chansons qui sortaient de l'ordinaire. Nino Ferrer ne les chantera plus. Il s'est donné la mort dans sa propriété du Lot cet après-midi. Il allait avoir 64 ans. Toulouse, Isabelle Delaude.
Le corps de Nino Ferrer a été découvert en début d'après-midi dans un champ à 3 km de la propriété où il vivait depuis une vingtaine d'années. C'est son épouse qui a alerté les gendarmes après avoir trouvé une lettre dans laquelle le chanteur expliquait son intention de mettre fin à ses jours. Nino Ferrer devait fêter ses 64 ans samedi prochain. Dans le petit village de Saint-Cyprien, près de Montcuq, dans le Lot, tout le monde connaissait le chanteur de Zavez pas vu Mirza ou Gaston, y a le téléphone qui sonne. Là-bas, il menait une vie tranquille, loin des paillettes du showbiz, valise. Rares étaient ses apparitions publiques. Son dernier album, c'était il y a 4 ans. Depuis, Nino se consacrait à la peinture, son passe-temps favori. Toulouse, Isabelle Delhaute, France Inter.
Vous viviez l'un et l'autre, Arthur et Pierre Ferrari, à la Taillade, lors de sa fin tragique.
Oui.
Moi, j'étais là. Je vivais plus à Paris. Mais j'étais là.
Vous ne l'avez pas vu venir, cet événement?
Non.
Non.
Non. Moi, j'avais 19 ans, hein, donc j'étais dans mon monde de jeune
étudiant.
Adulte. Non, je fais de la musique beaucoup avec lui. Je travaille avec lui sur le futur prochain album qui n'a jamais été enregistré. Donc il se passait des choses. Oui, j'étais ici, mais pas connecté. Il était suffisamment, intelligent et prévoyant pour nous préserver de ça, si, de quelle que soit la façon dont il est décidé pour passer à l'acte, en tout cas pour nous préserver totalement de pouvoir se rendre compte de quelque chose et de venir l'arrêter ou le stopper ou en parler. Ou...
Vous avez des hypothèses sur les raisons qui l'ont poussé à se tirer un coup de carabine dans le cœur, Arthur et Pierre Ferrari, les enfants de Nino Ferrer? Je sais que cette question est vaine.
Non, mais il y en a potentiellement plein. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. De toute façon, la vie, c'est compliqué. Même à la base, sans avoir de problème, c'est compliqué quand même. C'est quand même un moment où on se dit à quoi ça sert. Enfin, c'est particulier, la vie. Qui ne s'est pas posé ce genre de questions, déjà?
Il doit y en avoir, mais
ouais,
pas trop.
Pas trop. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'en sais rien. Il y a plein de raisons possibles.
On peut concevoir Nino Ferrer comme une sorte de héros de tragédie grecque.
Oui, je crois que c'est...
Me semble-t'il,
ouais, Zelda Meyer. Ça lui plairait bien, je pense, en plus. Ouais. En tous les cas, c'est vraiment... moi, quelqu'un que j'ai aimé profondément. J'ai vécu des moments très forts. Vous voyez, je peux encore pleurer.
Ah.
Il manque. Beaucoup. Désolé.
Ouais, c'est stupéfiant. Bah, surtout, ça, enfin bon, c'est vrai qu'on l'a pas vu venir. Et à la fois qui nous dirait qu'il était pas bien, qu'elle le laissait pas seul, il était déprimé parce qu'il était choqué parce que sa mère était morte, il s'en voulait parce que Mounette s'était cassé le col du fémur en allant voir un bout de chantier où il l'avait demandé de venir voir et elle s'était cassé la figure là, et après c'est les complications de ça et les suites de ça en fait qui l'ont beaucoup affaibli et tout ça.
Ça faisait trop.
Est-ce qu'il s'en est voulu à mort? J'en sais rien. Ça a participé. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y avait
satisfaction? Il était en colère. Il était tout un tas de choses.
Cette colère non gérée, non digérée, non résolue. Est-ce que s'il avait vu un psy jeune, ça aurait aidé ou, hein? Je sais pas.
Il paraît que dans les derniers temps, il avait une médication psychotrope, mais qui ne lui convenait pas du tout.
Alors ouais, bon, j'ai pas vérifié, mais oui, je pense qu'il prenait du Xanax et des trucs comme ça, et ça n'allait pas. Et je pense qu'il m'a dit qu'il avait fait plus que des appels de phare, des appels du pied au médecin, qu'il avait dit qu'il avait des envies suicidaires, et que le médecin lui avait dit non, ça va très bien. Et ouais. Voilà. C'est particulier, quoi, c'est compliqué, c'était il y a longtemps. C'est compliqué.
Et puis ça n'appartient qu'à lui.
C'est ça.
Moi, je passe bien 10 minutes par jour à jouer avec chacun de mes animaux. Et bien, tout ce temps-là, je suis heureux sans arrière-pensée. Le rapport avec un animal, c'est ça. Le bonheur sans arrière-pensée. Je suis très, très inquiet. Autrement, je serais pas un artiste, autrement. Enfin, je sais pas comment ils font, les autres, mais j'ai l'impression que on peut pas être un artiste, c'est-à-dire créer quelque chose s'il n'y en a pas une sensibilité exacerbée, enfin. Ou alors c'est une création mathématique, je sais pas, c'est pas mon type. Moi c'est une création comment dirais-je, sentimental, non, c'est pas le terme, c'est... Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire.
Au 95 de la rue Championnet, tu pousses la porte, tu te trouves nez à nez avec tout un tas de machins insensés, sans oublier la machine à café.
Bon, vous avez réussi à me faire pleurer, moi, bravo.
C'était pas mon intention.
Non, mais je me doute.
Plein de cadrans.
Oh, c'est normal, hein. Alors moi qui pleure jamais.
Alors il te répond d'une voix flûtée. Je ne suis pas gros, mais seulement enveloppé. On a fait de la musique pendant si longtemps. On a joué dans des galères.
Nino Ferrer, 1934-1998, L'insaisissable. Avec Alexandre Breton, rédacteur à Rock'n'Folk, Henri Chartier, auteur de Nino Ferrer, un homme libre, Julie Estardi, du studio CBE, auteur d'une biographie de Bernard Estardi, son père, Arthur et Pierre Ferrari, les enfants de Nino Ferrer et Kinou, Zelda Meyer, amie de Nino Ferrer et habituée de la taillade, et les chiens Nonos et Poum Poum. Merci à Sophie Pierre de France Culture, à Jonathan Kietza de l'assistance numérique de Radio France, à Daniel Panchenko, journaliste, aux éditions Le Mot et le Reste, aux éditions du Bord de l'Eau et à Ganzai Media. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, chargée de production Sylvia Favre, archivina Anne Delaveau, discothèque centrale de Radio France Antoine Vuillaud, documentation d'actualité Karine Auberwig, prise de son Sébastien Huel et Marie-Claire Oumabadi, mixage Valentin Hazan.
Sois technocrate, un redingote étriqué. Tu finiras bien par m'avoir tout ficelé. Mais jusqu'à temps que t'aies fait sauter la planète, moi je ferai de la musique avec mes potes.
Nino Ferrer, L'insaisissable, Marie Placet, Olivier Chauvet.